OK. Là, on va parler d'un verset et je vais le lire. Romains 11, 32. Ça parle de la... C'est un principe dans la théologie ce soir, mais j'espère et je prie que ça aurait des applications pour nos cœurs et pour aussi pour... On peut penser aussi aux âmes perdues. Et on prie que Dieu nous aide de voir mieux les âmes perdues ce soir. Donc, et sa vision vis-à-vis de Romains 11, 32. J'ai la version Darby. Car Dieu a renfermé tous, juifs et nations, ou juifs et grecs. J'ai une autre version, voilà. Tous les hommes, Dieu a renfermé tous les hommes dans le second, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Donc Dieu a renfermé tout le monde. Là, dans le contexte, il parle de les juifs. Et aussi des païens, nous les païens. Bon, peut-être il y a des juifs parmi nous, je ne sais pas, de race, mais on disait que Lipset, mon nom, peut-être il a une origine allemande, mais il y a aussi un cimetière juif à côté de l'église à Baltimore, où j'allais me promener des fois. Oui, ne demandez pas pourquoi. C'était un endroit tranquille où on pouvait aller se promener. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de noms sur les cercueils. Lipsitz, Lipsich. Ben, voilà, on s'arrête là parce que je ne sais pas quelle est l'importance de tout ça. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais Christ. Là, on voit dans le verset tous les hommes dans la désobéissance. Si des personnes, les âmes perdues dans ce monde aujourd'hui, et surtout des âmes avec des notions religieuses, pouvaient réaliser que ils sont renfermés dans la désobéissance par Dieu. Ils sont tous déqualifiés. On dit disqualifiés. C'est la disqualification totale, universelle. C'est comme si il y avait des Olympiques. Mais personne n'est venu parce que tous les candidats ont été disqualifiés. Il n'y aura pas d'Olympiques. Il n'y a personne là. Sauf un qui arrive, c'est Jésus. Mais voilà. Parmi les hommes, même chose dans le golf. Dans le golf, quand ils font des tournois, ils font normalement 4 jours sur 4 jours dans le golf professionnel. Ils font les premiers 2 jours, tout le monde joue de leur mieux dans une ordre aléatoire. Et puis, après, ils décident de cut, ils décident un niveau de qualification par rapport à leur performance des premiers 2 jours. Et certains sont disqualifiés pour continuer pour les derniers 2 jours, et d'autres sont qualifiés et ils sont mis dans l'ordre de leur performance jusqu'à présent dans le tournoi. Mais encore, c'est comme si le troisième jour vient, il n'y a personne qui reste, il n'y a personne pour jouer, pour gagner le trophée parce que tout le monde est disqualifié. Et tous les hommes devant Dieu. Et j'aimerais comprendre et que de penser à ça. On parle de la vie éternelle. Nous sommes ici bas sur la terre, il fait chaud. Voilà, c'est une journée dans nos vies, on a eu des activités. Mais on va tous vers une destination éternelle. Et pour toute âme perdue, cette destination, c'est l'enfer. Et si c'est des personnes religieuses ou morales qui ont fait un effort toute leur vie, ils sont quand même disqualifiés pour la vie éternelle, pour le ciel, l'âge éternel avec Dieu. Mais ils sont qualifiés pour la punition éternel. Et on ne peut pas l'imaginer si Dieu ne le révèle pas dans nos cœurs, mais l'enfer existe et la présence de Dieu existe. Et il y a deux, il est donné à l'homme une seule fois de mourir et après cela le jugement. Et c'est un endroit ou c'est l'autre endroit. Et tout le monde est disqualifié pour mériter le bon endroit. Voilà, tout le monde. La disqualification universelle. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça fait partie du bonne nouvelle. Et pensons juste à certaines... Pourquoi Dieu, les mérites sont exclus parce que Dieu voulait faire les choses autrement, parce qu'il fallait faire des choses autrement. Et pensons juste à cette disqualification universelle. Cinq choses. La vieille homme... En fait, c'est la vieille homme qui est disqualifiée. En Romains chapitre 1 à 3, il y a une présentation. Le livre de Romains, c'est vraiment une présentation de l'Évangile. Et l'apôtre Paul commence à en parler. Et en chapitre 2 de Romains, il donne à peu près les principes de la loi. Ou si, par exemple, Romains 2, voilà, verset, chapitre 2, verset... Oh, c'est difficile à lire dans cette Bible. De manière que... Quoi? Donc, ça va, je vais essayer, mais c'est juste qu'on ne voit pas le début des phrases. verset 6, quoi? Ou 5. Ils disent, selon ta dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère. Il parle de ceux qui jugent ceux qui vivent dans du n'importe quoi. Voilà. Et donc, tout le monde, ceux qui le font, ceux qui les jugent, qui en fait le font aussi, d'une manière ou d'une autre, t'amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère. Sérieux, c'est un jour à venir. Un jour, il y avait le COVID. Un jour... Il y a eu une guerre en Ukraine. Et un jour, il y a le jour de la colère qui va arriver. Et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà. Ici, l'apôtre Paul, On pourrait lire cet passage avec notre connaissance de l'Évangile et du salut et de Jésus et de ce qu'il a accompli sur la croix pour nous et dire, mais pourquoi il dit ça? Mais en fait, l'apôtre Paul est en train d'écrire aux païens et aux juifs à Rome, mais à l'Église, mais il est en train de présenter l'Évangile, mais de manière longue. Et il présente d'abord ici la possibilité de mériter la vie éternelle selon la loi. Il est en train de présenter l'hypothèse d'être justifié. L'hypothèse, peut-être ce n'est pas un bon mot. La possibilité d'être justifié selon la loi de Dieu, la loi de Moïse, la loi. Et la potentialité, voilà, hypothétique, parce qu'il arrive à une conclusion plus tard que ce n'est pas possible. Et il dit la vie éternelle à ceux qui persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éternelle, c'est ce qu'il y aura. Mais à ceux qui sont disputeurs et qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'iniquité, la colère et l'indignation, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, et du juif premièrement et du grec. Mais gloire... ici, juste parce que je ne veux pas être long avec ce point, mais ici, il est en train de montrer à ceux qui, parce que le contexte, c'est ceux qui jugent, ceux qui, parce qu'en chapitre 1, il parle des choses clairement péchés, qui sont clairement des péchés et plutôt des conséquences du fait que l'homme a refusé de glorifier et d'adorer Dieu qui s'est manifesté à eux, mais qu'ils ont changé son image. Ils ont pris ce que Dieu les a manifesté et ils ont tordu ça et ils ont quelque part refusé la vérité et les conséquences les amènent loin. Par exemple, il parle de l'homosexualité et c'est une conséquence de cette rébellion dans le cœur de l'homme. Une des conséquences et plein d'autres conséquences. Ça, c'est un seul parmi beaucoup. Mais chapitre 2, ça parle de... Il commence à s'adresser à ceux qui jugent ces gens-là, expliqué en chapitre 1, et que toi-même aussi, au verset 1, t'es inexcusable au homme, qui que tu sois qui juge, car en ce que tu juges autrui, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Et il est là en train maintenant, en chapitre 2, d'aller vers la conclusion où ceux qui pensent « Ah, moi, je ne fais pas ça, donc je peux leur juger et moi, je suis juste parce que je suis religieux, je lis la loi ou je fais ceci ou cela. » Et il est en train de les amener à la conclusion logique de la loi, c'est que toi aussi, tu es condamné, tu es coupable. Et chapitre 3, il donne très clairement, nul ne serait justifié par la loi. C'est la dépravation totale de l'homme, la doctrine de la dépravation totale de l'homme. Et moi, je l'ai dit, disqualification universelle de l'homme pour la vie éternelle. devant Dieu est juste une verset qui nous donne cette conclusion. Il arrive à la conclusion vers verset 19 de chapitre 3 et 20. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Ça, c'est le but. Pourquoi Dieu a donné la loi? Pour corriger l'homme. Bah, depuis la chute, le péché est rentré dans le cœur de l'homme. Et en fait, et l'histoire a révélé qu'il est incorrigible. Incorrigible. Avec tous ces efforts, ça. On a lu ça, on a vu, Letty et moi, on est en train de parcourir une série de dessins animés qui s'appelle Torchlighters Series. Ça existe en anglais et en espagnol, mais c'est des petits films de 30 minutes environ sur la vie de quelqu'un dans l'histoire, un chrétien, un missionnaire, ou il y avait des personnes qui étaient impliquées à libérer des esclaves, mais des personnages dans l'histoire de l'Église. Et c'est très édifiant. Et John Bunyan, c'est un de ces personnages qui écrit Le Voyage du Pèlerin, le livre qui est très connu. Je ne l'ai jamais lu, mais j'ai vu un film une fois. Mais en tout cas, lui, il était un mauvais garçon quand il était jeune, soi-disant, très rebelle, très ouvertement rebelle, on va dire comme ça. Et après, il est devenu très religieux et très bon, soi-disant, un bon citoyen, un bon homme. Mais il savait lui-même, il a décrit quand il a rencontré des vrais chrétiens qui étaient nés de nouveau, qui avaient Jésus-Christ dans le cœur, la nouvelle nature. Et il leur disait, mais vous, c'est différent. Moi, c'est comme si on a mis une couche de peinture sur le mur, mais tu pèles la peinture et le mur, il est toujours là. Mais vous êtes un nouveau bâtiment. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a constaté chez ces gens, il y a quelque chose de différent là. Mais lui, il voyait qu'il pouvait essayer, mais sa bouche était fermée et son cœur était fermé parce qu'il savait que ça ne suffisait pas ce qu'il faisait. Et c'est pourquoi nul cher à que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi nul chair ne sera justifié devant lui par des œuvres de loi, car par la loi il a connaissance du péché. La loi sert de nous révéler. La loi a servi de révéler à l'homme qu'il est pécheur. Donc, le problème que l'homme il a, ce n'est pas un problème quelque chose qu'il peut régler. Son problème va plus profond que ça. C'est ce qu'il est. C'est pas ce qu'il fait qui est vraiment le problème. C'est ce qu'il est derrière la peinture. Ou peu importe, peinture ou pas, c'est ce qu'il est qui est le problème. Il est disqualifié devant Dieu parce qu'il a cette nature qui est le péché en lui. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, qu'il est disqualifié pour mériter le ciel et la vie éternelle, il est qualifié pour recevoir miséricorde. Le verset au début, il dit, il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, à tout. Voilà, tous disqualifiés, mais tous qualifiés pour recevoir de la miséricorde. Et c'est ça que Dieu voulait faire, donner miséricorde. On a aussi regardé un de ces films sur John Newton. John Newton, c'était un homme qui a écrit le chant en anglais « Amazing Grace ». « Merveilleuse grâce qui m'a sauvé ». Voilà. Cette chant-là, écrit par le pasteur John Newton en Angleterre, qui était auparavant un capitaine sur des bateaux qui amenaient des esclaves aux États-Unis, je ne sais pas où en fait, mais de l'Afrique vers les États-Unis, je crois. Mais un vendeur, un trafiqueur d'esclaves, avec la conscience déchirée de partout par les choses qu'il avait faites. Et il a dit à la fin de sa vie, il a dit, je l'ai en anglais, hein, mais je vais traduire dans ma tête. Malgré le fait que ma mémoire is fading, ma mémoire se perd, je me rappelle de deux choses très clairement. Oui, il a dit à la fin de sa vie, je me rappelle de deux choses très clairement. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. Est un grand sauveur. Et c'est ça, miséricorde pour tous. Qualifié pour recevoir la miséricorde, tous. John Newton inclus. Allons-y de ce point. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que personne ne se glorifie, mais que quiconque croit ait la vie éternelle. Peut-être j'ai mal cité le verset. Mais quiconque croit qu'il ait la vie éternelle, il est qualifié pour la vie éternelle. Quiconque est qualifié, s'il croit dans cette bonne nouvelle que Jésus est mort pour les pécheurs, le juste pour les injustes, la vie éternelle, tout le monde est qualifié. Un deuxième verset, Romains 10, versets 12 et 13. Car il n'y a pas de différence de juif et de grec. Car le même Seigneur de tout est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je pense que je parle aux personnes qui ont cru en Jésus et qui sont sauvées. Mais on ne sait jamais, ce message est enregistré. Si quelqu'un pense être le pire des pécheurs et qui écoute ma voix, ce message, et qu'il est destiné pour l'enfer parce qu'il a trop fait déjà, quiconque, c'est toi aussi. Quiconque, c'est toi aussi. Quiconque croit, il est la vie éternelle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que tu es disqualifié, oui, pour mériter. Mais ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce, de miséricorde que Dieu veut te donner, invoque-le, il va le donner. Jésus est mort pour toi, à ta place. Voilà, c'est aussi quelque chose que je veux avoir dans mon cœur quand je rencontre les gens, parce que moi, facilement, je peux disqualifier les gens quand je les vois et penser, non, je peux juste... Mais ils sont qualifiés pour recevoir de la miséricorde. Ils sont qualifiés pour recevoir de la miséricorde. Peu importe combien ils ne le méritent pas. Bah, toi aussi, Paul. Toi aussi. On aurait pu te regarder comme ça aussi. Mais quelqu'un t'a regardé avec espérance. Et ils ont cru que tu étais candidat. Qualifié pour être récipient de la vie éternelle. Juste pour quatre autres choses, donc parcourir cinq points, ça c'était le premier point, c'était pour mériter la vie éternelle, et c'est le verset que je l'ai lu au début. Pour la vie éternelle, tout le monde est disqualifié, mais tout le monde est qualifié. Tout le monde est disqualifié pour le mériter eux-mêmes, mais tout le monde est qualifié pour le recevoir par grâce. Voilà. Prochainement, connaître Dieu. L'homme naturel, il ne connaît pas Dieu. On parle de la dépravation de l'homme. Il ne connaît pas Dieu. Exode 5, 2, le Pharaon il a dit à Moïse, « Qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. » Et c'est vrai, il ne le connaissait pas. Isaïe 45, 4, il y a beaucoup de versets sur ce sujet. « Mais l'homme naturel ne connaît pas Dieu. L'homme païen ne connaît pas Dieu, d'abord. » On peut dire, je suis l'Éternel Dieu. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un nom. Donc il parle d'Israël maintenant. Et tu ne me connaissais pas. Tu ne me connaissais pas. Quand Jésus est venu, Jean 1, 10, le monde ne l'a pas connu. Le monde ne l'a pas connu. Et son peuple aussi ne l'a pas connu. Jean 10, Jean 8, 54. Excuse-moi. Ça va?
Ça va bien, merci.
Merci, Robert. Oh. Oh, merci. Jean 8, 54b. Juste, je vais lire, c'est Jésus qui parle aux Juifs. Il dit, lui qui vous dites, il est notre Dieu, et vous ne le connaissez pas. Voilà, il a dit aux Juifs, vous le dites qu'il est votre Dieu, et vous dites, il est notre Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Donc, les Juifs, malgré tout ce qu'ils avaient, la Bible, l'histoire, les promesses de Dieu, l'alliance de Dieu, la présence de Dieu, parce que Dieu veille sur Israël, mais ils ne le connaissaient pas, parce que l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. En 1 Corinthiens 2, chapitre 2, il ne connaît pas Dieu. 1 Corinthiens 2, 11, personne n'a... Attends. 1 Corinthiens 2, 11. Car... Ah. Oh là là. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? La réponse impliquée, c'est personne. Donc, les hommes ne connaissent pas Dieu. Et nous ne connaissions pas Dieu. Avant de recevoir, obtenir miséricorde, lorsqu'on était dans la désobéissance, on ne connaissait pas Dieu. Et ce n'est pas que tout d'un coup on est devenu obéissant, non. C'est que tout à coup, on a obtenu miséricorde. Et Dieu nous a fait grâce et il nous a donné une nouvelle nature, la nouvelle naissance. Et maintenant, nous connaissons Dieu. Je sais que je parle aux gens et peut-être ces choses, on les connaît déjà. Mais on va juste parler de l'évangile un peu ce soir, de ce que Dieu a fait pour nous. On était destinés pour l'enfer, mais Dieu nous a destinés par sa miséricorde pour la vie éternelle avec lui. Et on ne connaissait pas Dieu, on ne pouvait pas le connaître, on ne pouvait pas le connaître. Mais maintenant, un autre verset, c'est, j'aime ce verset, c'est 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le véritable, c'est Dieu. Mais il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné une intelligence dans le Darby et dans le King James et dans le grec. Il nous a donné une intelligence. Avant, on était sans intelligence. Maintenant, il nous a donné sans cette intelligence. Peut-être on avait l'intelligence de l'homme, mais sans cette intelligence qui connaît Dieu. Et maintenant, on a une intelligence où on connaît Dieu. Et Jean 10, mes brebis connaissent ma voix. On connaît Dieu. On a une relation avec lui. Il ouvre mon oreille chaque matin. Il nous parle. Il nous guide dans notre vie. Il est présent. On a parlé dimanche. Il est fidèle envers nous. Nous qui sommes si changeables, incapables mais dans nous-mêmes. Mais on le connaît quand même. On le connaît. Quand on entend sa voix, on dit, ah, il y a quelqu'un qui a écrit un chant un jour qui dit, je reconnais cette voix. Mais on reconnaît la voix. On reconnaît la voix de notre berger. On le connaît. David a dit, il me fait reposer sur le vert pâturage. Il me conduit dans les chemins de la justice. Donc on le connaît. Et c'est une grâce, c'est un don. Dieu nous a donné une intelligence pour le connaître. Et prochain point, troisième point, cinq points. Similaire, pour comprendre les choses spirituelles, l'homme naturel, le vieil homme, ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Tu vas lui dire, l'arbre à des feuilles, de la feuillage verte, il va entendre quelque chose de différent. Il va dire, ah, des arbres, qu'est-ce qu'ils font ces chrétiens avec des arbres? Non? Mais il va juste mélanger la chose. C'est comme tu veux mélanger l'huile et l'eau et ça ne mélange pas. Et nous, sans l'Esprit de Dieu, les choses spirituelles et nous, ça ne mélange pas. Ça ne rentre pas. Et on va mal, on l'interprète bizarrement. Et depuis 2000 ans, et même avant, mais dans l'âge maintenant de l'Église, l'homme, il y a tellement d'histoires qui montrent que l'homme, il voit l'Église, il voit les chrétiens, et il ne les comprend pas. Il ne les comprend pas. Et Jésus l'a dit, le monde ne m'a pas connu, il ne va pas vous connaître non plus. Il ne va pas vous reconnaître. Je crois que c'est en Jean. Je n'ai pas la référence, désolé. Mais Jean 17, je crois. Peut-être c'est verset 25, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, 1 Corinthiens 2, 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie. Il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Il faut passer de l'état dépravé à l'état sauvé pour pouvoir comprendre les choses spirituelles. Il faut obtenir miséricorde pour pouvoir comprendre les choses spirituelles. L'Esprit de Dieu nous est donné par grâce et ça nous permet de comprendre les choses spirituelles. Maintenant, ça nourrit qu'on entende des choses spirituelles. J'ai une attente et Dieu accroisse mon attente. Faire grandir mon attente, par exemple, pour cette semaine à venir avec le camp où on va entendre la prédication. Des choses spirituelles vont être dites et ça va me nourrir par la grâce de Dieu. Et c'est le cas. Nous, pas juste une prédication, mais on discerne dans notre journée où Dieu veut nous communiquer des choses spirituelles. Peut-être c'est dans l'attitude de quelqu'un. Je discerne, ça c'est spirituel. Moi, je discerne ça souvent à la maison, avec quelqu'un. Mais c'est le corps de Christ nous révèle des choses spirituelles. Et voilà, Dieu, je dis que personne ne peut connaître Dieu s'il n'est pas né de nouveau, quelque part, et comprendre ces choses. C'est vrai que Dieu révèle ces choses, il initie ces choses au monde, mais on a vu qu'en Romains 1, que les gens, ils transforment la gloire de Dieu. Dieu révèle sa gloire par la nature, par la création, par exemple. Mais les gens, ils ont la lumière commence à briller, mais il est possible de transformer cette lumière parce que je ne le veux pas. Je ne reçois pas l'amour pour la vérité. Ça, c'est dans le livre de 1 Timothée. Quoi? Pour être sauvé. Ils ne reçoivent pas l'amour, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Il y a quelque chose à recevoir que Dieu initie envers l'homme perdu, incapable de se sauver, incapable de 2 Thessaloniciens 2, 10, okay. Et incapable de connaître Dieu, incapable de comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Voilà, un enfant, peu importe qui c'est, on peut essayer de leur donner des choses spirituelles. Et ce n'est pas forcément mauvais. Dieu initie. On initie des choses spirituelles. Et on espère, parce que comme personne n'est moins candidat pour recevoir la grâce que moi et nous tous, donc on espère que quelque chose va coller. Comme Lydie, Dieu a ouvert le cœur de Lydie pour recevoir les choses que Paul et compagnie ont dit en Philippie, au bord de la rivière. Donc, c'est l'évangélisation. Pasteur Schaller, en Hongrie, quand il était missionnaire là-bas, il disait qu'ils avaient appelé un certain mois, dans un été, une année, ils ont appelé Mud Month, le mois du boue, de la boue. Et l'idée, c'était qu'on va jeter du boue contre le mur, de la boue, pardon, contre le mur, et il y en a qui va coller au mur, il y en a qui va tomber par terre, il y en a qui va coller au mur, se coller au mur. Et voilà, si on jette du boue, de la boue, pardon, contre le mur, ça peut coller. Mais voilà, mais que on ne sait jamais que si Dieu va ouvrir le cœur de quelqu'un et si ils vont tourner les yeux vers Dieu et recevoir l'initiation de Dieu. Et nous voulons être les initiateurs de Dieu. Et je pense que nous le sommes parmi nous. Il y en a. Et c'est beau. Et keep doing it. Vas-y, continue à le faire. Initie l'amour inconditionnel. Initie la miséricorde. Initie la grâce. Initie l'évangile, les paroles de l'évangile. Et un jour, peut-être, la personne va recevoir ça. C'est notre prière. Et on était aussi disqualifié, on va dire, disqualifié pour servir Dieu. Quatrième point. Josué a dit au peuple d'Israël, en Josué 24:19, vous ne pouvez pas servir l'Éternel, car il est saint. Vous ne pouvez pas. Il leur a dit comme ça. Il y en a qui disent aux gens, essayez de servir l'Éternel. Mais non, vous ne. Le premier message que quelqu'un a besoin d'entendre, parce que malheur, on va dire, quand l'Église communique au monde la loi pour essayer de les faire servir Dieu. Parce que le monde ne peut pas servir Dieu. Ils ont besoin d'entendre d'abord, vous ne pouvez pas servir Dieu. Donc, voilà, vous êtes disqualifiés. Ils ne vont peut-être pas vouloir l'entendre. Le monde préfère entendre, je ne sais pas, aimez-vous les uns les autres. Ils préfèrent entendre ça que vous ne pouvez pas aimer les uns et les autres. Quoi? Moi, j'aime mon prochain. Voilà. Ça, c'est le monde. Ils pensent qu'ils peuvent aimer. Mais quand Dieu met sa lumière, c'est révélé. C'est comme ce qu'on a dit dimanche, la fidélité. Notre fidélité, Pierre pensait être fidèle. Mais non, Pierre, tu n'es pas fidèle. Et notre amour, c'est de la paille sans Dieu. C'est faux. C'est 1 Corinthiens 13, 1 à 3. On peut donner même notre corps pour être brûlé. On peut donner tous nos biens aux pauvres. Mais si je n'ai pas l'amour de Dieu, agapé, c'est juste, ça ne me profite rien. C'est pas. Peut-être c'est même contre l'œuvre de Dieu. Peut-être ça va même faire du mal. Même si Dieu peut tourner tout mal en bien. Mais on ne peut pas servir Dieu dans la chair. L'homme ne peut pas servir Dieu. Et Jean 15, 5. Caïn. Caïn, en Genèse 4, le frère d'Abel, il a travaillé dur, il a amené ses légumes à Dieu. Et Dieu ne le respectait pas, son offrande. Et son visage est abattu, son contenance abattu, parce que Dieu n'a pas respecté mon œuvre. Parce que Caïn, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas. Et Abel qui a sacrifié un animal qui était une image déjà du sacrifice de Jésus à venir, c'est ça qui a plu à Dieu. C'est le sacrifice de Jésus qui plaît à Dieu. Et la foi dans ce sacrifice a plu à Dieu. Et ça sert Dieu. On peut servir Dieu grâce au sacrifice. Hébreux 9, 14. On va le lire. Dans quelle version? Darby. C'est un peu informel ce message ce soir. J'espère que ça va. On est en famille. Sauf que ça va être publié sur l'Internet et j'ai un peu peur.
C'est très bien.
Ok, merci. Et Hébreux 10, verset 14. Non, Hébreux 9, verset 14. Combien plus, je prends au milieu de la phrase, désolé, mais j'espère que vous allez pouvoir suivre. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ou, c'est ça l'homme naturel quand il essaie de servir Dieu, c'est des œuvres mortes, parce qu'il le fait avec une mauvaise conscience. Il essaie de enlever la tâche qui est devant lui tout le temps, de son péché, de sa culpabilité. Ça, c'est ses œuvres. C'est ça. Ça, c'est ses donations. Non. Voilà. Tout ce qu'il fait, si c'est ça sa motivation, c'est des œuvres mortes, tout simplement. Et si c'est ça sa nature, parce que Dieu nous a donné une nouvelle nature, sans cette nouvelle nature, on ne peut pas servir Dieu. Donc, il n'a pas juste purifié notre conscience, mais dans cette purification de notre conscience, des œuvres mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant. Cette purification de notre conscience a ouvert une nouvelle voie pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Plus distrait par ma conscience, j'ai toujours pensé comme c'est un peu comme une femme qui se marie le jour de son mariage et elle a du rouge à lèvres ici sur sa robe. Okay, rouge à lèvres, c'est pas bon. Donc, Letty dit, c'est facile à enlever. J'aime pas dire du vernis. Ouais, ou voilà, une tache de sang parce qu'elle s'est coupée le doigt et elle n'a pas réalisé, elle l'a mis partout sur sa robe de mariée. Est-ce qu'elle va pouvoir profiter pleinement de son jour de mariage comme ça? Je pense que elle va être distraite. Je pense qu'elle va être consciente de ses tâches tout le long de la journée. Et quand elle regarde les photos du mariage, elle va être consciente de la tâche. Les hommes qui n'ont pas obtenu miséricorde dans cette planète sont comme cette femme-là, toute la journée, toute leur vie, conscients des tâches qui sont partout sur eux et dans leur histoire. Et ils sont distraits. ils sont pas libérés pour servir le Dieu vivant. Leurs yeux, oreilles sont fermées, ils voient que leurs tâches. Voilà. Dernier point. Pour plaire à Dieu, on a déjà dit, mais on va juste élaborer un peu. Romains 8, 7. Ah, je pensais être là. Ça va? Ça va mieux maintenant, je crois. Romains 8, 7. Parce que, ouais, on va juste commencer où? Ok, on commence à verset 5. Car ceux qui sont selon la chair, l'homme naturel, sans avoir obtenu miséricorde et la nouvelle nature et l'esprit, donc ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit, car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit vit et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Car elle aussi, elle ne le peut pas. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, ne peut pas servir Dieu. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, les gens qui sont dans la chair, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils vivent, en fait, avec cette idée, même cette conscience de déplaire, quelque part, à Dieu, comme Caïn, avec son offrande. Ce n'est pas que Dieu les haït, mais il n'est pas content avec leur... Voilà. Mais la bonne nouvelle, et on va aller là, la bonne nouvelle, il y a aussi verset à lire, Ésaïe 64, 6, comme des vêtements souillés, toutes nos justices devant Dieu sont comme des vêtements souillés. Est-ce que Dieu, maintenant c'est une question théologique qui vient, est-ce que Dieu peut utiliser un non-croyant pour faire son œuvre? Moi je dis que oui. Je crois qu'il le fait avec des gouvernements, des rois, des policiers, il le fait avec des parents envers des enfants. Moi je vois ça chez mon père. J'ai vu ça en tout cas, je pense, chez mon père. Dieu peut passer par quelqu'un qui est non croyant pour agir. Par exemple, il y avait le centurion, romain Lysius, je crois. C'est peut-être pas juste centurion, il était capitaine, je crois. Il était plus qu'un centurion. Il était à Jérusalem, capitaine de la garde ou quelque chose comme ça. Désolé, je n'ai pas le titre officiel qu'il portait, mais Dieu l'a utilisé pour protéger l'apôtre Paul quand les Juifs voulaient le détruire, le tuer. Il est venu avec des soldats le prendre. Après, il l'a amené à un lieu sécurisé quand il a entendu qu'ils avaient un complot pour tuer Paul. Dieu peut utiliser des personnes non sauvées pour le bien de son peuple, pour son plan, pour avancer son plan. Mais on est en train de parler d'une question de nature, être plaisant à Dieu. On a ce problème de base de nature qui nous disqualifie à toutes ces choses. Et la seule manière de devenir plaisant à Dieu, c'est d'obtenir miséricorde par la foi en Jésus. Et c'est, on va lire Éphésiens pour finir. Éphésiens chapitre 1, 2, non 1, Éphésiens chapitre 1, verset 6. Bon, il faut que j'aille plus loin. Béni soit, verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, ceux qui ont obtenu miséricorde, selon qui nous est élu en lui avant la fondation du monde pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Maintenant, l'élection, pour ne pas parler de ce long sujet, mais juste, c'est selon sa préconnaissance. Il préconnaissait qu'on allait recevoir cet amour de la vérité. On allait ouvrir notre cœur et croire en Jésus dans ses initiations. Quand il a initié l'évangile envers nous, il a vu d'avance qu'on allait croire. Et donc, il nous a prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables ou favorisés dans le bien-aimé qui est Jésus-Christ. J'ai ajouté la dernière phrase, mais qui est Jésus-Christ. Mais dans le bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que Dieu maintenant, est-ce que je plaisais à Dieu dans mon ancienne nature avant de recevoir Jésus-Christ? Non, c'était corrompu. Comment je pourrais plaire à Dieu? J'essayais sûrement des fois, même si à la base j'étais vraiment un ennemi de Dieu. Je préférais que Dieu s'en aille et qu'il me laisse tranquille. Mais j'aurais peut-être essayé de le plaire à lui, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Voilà. Mais c'est la réalité de l'homme déchu. Mais maintenant, par grâce, nous sommes aussi plaisants à Dieu que son Fils. Ça, c'est quelque chose. Je plais à Dieu comme Jésus plaisait à Dieu. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Wow, tu dis, ouais, moi, et c'est nous tous en Christ. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est juste pure grâce. Le mot, c'est gracié. Donc, on a été mis dans cette grâce et cette faveur imméritée. Et ça, c'est notre position à jamais, obtenue par miséricorde. Et maintenant, la dernière chose, c'est juste, tout ça, c'est à la gloire de Dieu. Voilà, la gloire de sa grâce. On entend cette phrase quelquefois, oui, à la louange de la gloire de sa grâce. À la louange, il parle en Éphésiens 1 de la gloire à venir. Il parle de l'attente que Dieu a, son bon plaisir de rassembler toutes choses en Christ dans les lieux célestes et sur la terre. Dieu attend avec ferveur, je vais dire, ce jour où on va tous être ensemble devant lui dans cette grâce. Et c'est à la louange de la gloire de sa grâce. Lorsqu'on en est dans ce jour, et on voit des clins d'œil de ce jour dans le livre d'Apocalypse, où tout le monde est rassemblé autour du trône. Et comment les gens agissent autour du trône? Est-ce que c'est, ils se donnent un coup sur le dos et disent, « Oh, bravo, bravo !» T'as bien fait, t'as persévéré, bravo, t'as été, ah oui, toi aussi, ah, je pensais que t'étais bien, comme moi. Non, John Newton, à la fin de sa vie, ce prédicateur, pasteur en Angleterre, un exemple, il reflétait son cœur, sa phrase, à la fin de sa vie, reflétait, je pense, l'attitude que nous allons avoir devant autour du trône ce jour-là. Et dans ce jour-là, c'était, je me rappelle clairement de deux choses. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. Et c'est à la louange, pas de Paul et Letty et Helmut et Jacqueline et Robert, c'est à la louange de, et nous on le sait bien, ce serait tellement stupide, tellement inapproprié de nous louer, mais ce serait à la louange de sa grâce. Bien sûr que Dieu, dans sa grâce, il nous félicite pour des choses quelque part, il nous donne des récompenses et tout ça, mais c'est, ça va être la fin de la fin de l'histoire quelque part, même si ce n'est pas la fin, il n'y a pas de fin, c'est à la louange de sa grâce. Nous étions perdus et Dieu nous a donné miséricorde. Nous étions dans la désobéissance, renfermés dans la désobéissance, comme dans une prison. Je ne pouvais pas sortir de cette prison de désobéissance et d'incrédulité. Mais Dieu, j'ai obtenu miséricorde. Et gloire à Dieu pour ça. Donc, la gloire de sa grâce, c'est ce qui attend. Donc, que Dieu vous bénisse. On va prier et terminer. Seigneur, merci pour... ta grâce, merci pour tout ce que tu nous as fait pour nous. Et nous prions juste que tu bénisses quelques paroles qu'on a entendues dans ce message, que quelque chose aurait été planté dans nos cœurs par ton esprit et que c'est de ça que nous allons pouvoir méditer et se rappeler et germer, que ça puisse germer et porter du fruit pour ta gloire dans nos vies. Et merci Seigneur, au nom de Jésus, amen.